Papa, et non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère. C'est devenu ultra simple, notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme de site web tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canons dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos propres campagnes email. Vous pouvez même vendre vos propres formations en ligne. Donc si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. N'hésitez pas et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Mes chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous emmène comme chaque semaine à l'aventure, surtout à la découverte d'une personnalité remarquable. Et c'est véritablement le cas cette semaine. J'ai le plaisir d'avoir à mon micro Fabrice Midal, que vous connaissez peut-être parce qu'il est très présent justement sur YouTube. Fabrice, au-delà d'être un auteur à succès, il a à son actif, je crois, plus de 40 ouvrages. C'est assez colossal et j'en ai d'ailleurs juste devant moi. Fabrice, au-delà de ça, est un spécialiste de la philosophie et également de la méditation. Il est d'ailleurs à l'origine de l'école de méditation française, une école laïque de méditation qui nous apprend à tout simplement être mieux aligné avec notre pensée. Fabrice a livré vraiment un cours de philosophie, un cours pour apprendre à se foutre la paix, un cours pour être bien, pour ne pas se mettre la pression et puis surtout pour ne pas tomber dans l'illusion du contrôle, un sujet dont on a longuement parlé lors de cet épisode de podcast. Je pense que c'est un épisode qui plaira à toutes les personnes qui se posent des questions sur le rôle de leur ambition professionnelle, comment faire la part des choses avec le lâcher prise. Personnellement, il m'a énormément touchée et j'espère que ça sera le cas pour tous ceux d'entre vous qui allez l'écouter. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un petit mot à Fabrice, je suis sûre qu'il en sera ravi, à vous abonner à ce podcast si c'est pas encore fait et pourquoi pas à le diffuser. Ça me ferait bien évidemment très plaisir de pouvoir encore plus mettre en avant le travail de Fabrice. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Fabrice Midal. Bonjour Fabrice, bienvenue sur le podcast. Je suis enchantée.
Bonjour.
Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors Fabrice, c'est pas facile quand même de commencer un épisode de podcast avec vous parce qu'on a envie de partir dans tous les sens. Donc je me suis creusé la tête et je suis tombée sur une phrase que vous auriez dite dans le magazine Le Temps. Vous auriez dit « Je ne suis pas contre la rentabilité ou l'efficacité. Ce que je souligne, c'est que la dictature de la rentabilité n'est pas rentable. C'est là tout le paradoxe. » Alors je l'ai sorti un peu du contexte.
Mais c'est bien, c'est vrai.
Mais je serais très curieuse de savoir ce que vous vouliez dire par là, et puis surtout que vous puissiez élaborer pour l'audience qui nous écoute.
Je dénonce dans tous mes livres et dans mon travail la manière dont on est pris par une pression qui nous empêche complètement de nous réaliser, de nous accomplir. Mais ce n'est pas, et voilà, puis je suis l'auteur de « Foutez-vous la paix », qui est le livre que j'ai écrit, qui est le plus
connu.
Que
j'ai devant moi, que je viens de terminer pour tout vous dire.
Et le malentendu, c'est qu'on pourrait croire que, en invitant les gens à se foutre la paix, j'invite à renoncer à l'excellence, à l'engagement, au travail. Or, pas du tout. Mais pour travailler intensément, pour entrer dans la profondeur des choses, pour atteindre une certaine forme d'excellence, il faut justement que la pression qui nous tétanise, qui nous fait perdre nos moyens, qui nous rend idiots, qui nous fait prendre des schémas tout faits au lieu d'inventer quelque chose de neuf, s'estompe. Si vous allez voir un médecin et qu'on veut tellement contrôler tout ce qu'il fait, ce qui est en train d'arriver en ce moment, avec de plus en plus de paperasserie, de plus en plus, il faut faire des examens pour être assuré de tout, il n'y a plus le temps de la clinique. Or, ce qui était important pour un médecin, c'est le temps d'examiner le patient, de tâtonner, de laisser son esprit aller dans différents sens pour par là sentir des choses et trouver des chemins auxquels il n'aurait peut-être pas pensé. Moi, j'ai une grande passion pour la cuisine. J'aime beaucoup les grands chefs. J'ai aimé plusieurs grands chefs. Je préfère choisir les plus grands chefs. Enfin, comme je vais voir un médecin, j'ai envie d'avoir le meilleur médecin. Un grand chef, pour qu'il soit lui-même, faut travailler vraiment comme un chien, mais faut aussi oser être soi-même. Faut aussi inventer son propre chemin et sortir de ce que j'appelle cette dictature de la rentabilité qui est basée uniquement sur le contrôle. Et c'est l'idée que je serai heureux quand je contrôlerai tout. Or, plus je contrôle, moins je suis libre, moins je peux inventer, moins je peux créer, moins je suis pertinent. Donc, c'est ce paradoxe-là que j'essaye de montrer. Nous n'avons à notre disposition, alors là, je prends la casquette philosophe, nous avons à notre disposition que deux choses. Soit il faut par la volonté contrôler toujours davantage la réalité soi-même, soit je démissionne, je lâche prise, je suis zen, je me calme. Or, mon idée fondamentale, c'est que c'est deux erreurs aussi grandes l'une que l'autre.
Donc, pas d'excès ni dans un sens ni dans l'autre.
Je dirais pas, c'est pas un excès, je dirais, c'est juste deux fausses pistes. C'est-à-dire, plus la volonté ne peut pas consister à vouloir unilatéralement de manière aveugle, la volonté au sens profond repose sur une capacité d'écoute. Donc, je dirais, c'est deux faux chemins qui sont les deux seuls chemins que la plupart d'entre nous, auxquels nous pensons spontanément. Je me crispe, je veux davantage, plus je veux, plus je vais réussir à faire quelque chose. Mais en faisant ça, le problème, c'est que ça marche pas comme ça. J'oublie l'écoute, la rencontre, la créativité, etc. Donc, c'est la volonté n'est pas une solution. Prenons un exemple tout simple pour qu'on voit que c'est très concret. Je fais une insomnie, j'arrive pas à dormir. Plus je veux dormir, moins je réussis à dormir. On a tous vécu ça. Je me dis, ah là là, il faut que je réussisse à dormir. Et plus je me dis ça, moins je réussis à dormir. Donc, mais il s'agit pas de démissionner. Il s'agit de retrouver des forces, des ressources. Mon corps a envie de dormir, mais ma volonté de contrôler mon sommeil empêche que je laisse mon corps dormir, par exemple. Mais c'est la même chose. J'ai dû écrire un jour un texte parce que j'ai perdu mon professeur de philosophie que j'aimais beaucoup et je voulais écrire un texte d'hommage pour une célébration pour sa mort. J'arrivais pas à l'écrire. Plus je voulais l'écrire, moins j'arrivais à l'écrire. Il ne s'agissait pas de rien faire. Il s'agit de trouver une autre modalité de présence dans laquelle on touche une sorte d'autre savoir et qui repose sur une forme de confiance, d'inspiration. Et c'est ça que j'essaye de montrer. Et nous sommes en train aujourd'hui de faire fausse route parce que nous sommes obsédés par l'idée d'un contrôle abstrait, théorique, désincarné, qui nous prive de notre propre intelligence, de nos propres ressources, de notre propre créativité, de la capacité d'écoute envers l'autre. Et c'est ça qui nous appauvrit énormément. Et au fond, tout mon chemin, depuis Foutez-vous la paix jusqu'à tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être, essaye de dessiner cet autre territoire qui est absolument fondamental et que nous sommes en train de perdre.
Fabrice, vos mots me touchent beaucoup et je pense qu'ils vont toucher mon audience parce que, comme je vous disais avant qu'on commence, on a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont des personnes qui sont ambitieuses, qui travaillent dur et qui, du coup, je pense, ont créé une forme d'association dans leur esprit entre le travail acharné, cette ambition, cette nécessité de rentabilité, cette dictature, comme vous disiez, de la rentabilité et le succès et le bonheur aussi, d'une certaine manière. Et en fait, je pense qu'il y a même des biais de confirmation dans leur tête, dans leur esprit, qui se forment, qui sont, en fait, si je travaille, j'ai des effets positifs, ou si je me défonce, si je vais au bout des choses, si jamais je suis vraiment complètement dans l'extrême, en fait, et anti-lâcher prise, eh bien, à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là que je réussis, d'une certaine manière. Et je pense notamment à des entrepreneurs qui, finalement, c'est à force de cette volonté, et quand quelque chose paraissait impossible, finalement, ils arrivent à soulever des montagnes. Et je pense que le problème avec ça, c'est que ça crée, effectivement, des personnes qui ont un biais pour... un biais de confirmation qui est que, en fait, il y a uniquement une seule voie, comme vous disiez, qui est possible. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là pour essayer de les aider? Parce que ça devient en fait quand même un peu une course sans fin, qui est parfois pénible et qui peut d'ailleurs mener à des problèmes de santé. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là pour essayer de leur faire comprendre que non, il y a une autre voie qui est possible?
D'abord, il faut bien montrer que avoir une volonté acharnée de faire quelque chose, c'est génial. Mais ça impose de pas avoir peur de l'échec, de ne pas confondre, de pas avoir peur de l'échec qu'on peut rebondir. Ça impose de pouvoir apprendre à s'ouvrir à des formes d'intelligence, de savoir autres que ceux les plus banals qui existent. C'est-à-dire, le très bon médecin, c'est le médecin qui va avoir quasiment une sorte de sixième sens, qui va avoir suffisamment travaillé, bien sûr, d'expérience pour ne pas être terrorisé, avoir peur de rater quand on va voir un patient, mais oser explorer plusieurs chemins. Ce que je montre, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont bloqués. ils vont voir un patient et ils vont être bloqués parce qu'ils n'osent plus partir à l'aventure, prendre le risque, ne pas savoir. Pour savoir, il faut accepter de ne pas savoir. Pour réussir, il faut accepter d'être curieux. Il faut accepter de pouvoir se tromper. Et donc, la volonté est aujourd'hui caricaturée dans une volonté unilatérale, crispée, fausse. Je ne peux vouloir... Voilà, moi, j'ai écrit 40 livres. Mes livres, voilà, sont traduits dans le monde entier. Mais au fond, l'impact qu'ont mes livres vient du fait que j'essaye d'être à l'écoute. Donc, c'est pas que la volonté. La volonté est impuissante sans écoute. Vous êtes obligé d'écouter la situation, le monde, les gens. Et quand on parle des entrepreneurs, par exemple, beaucoup d'entrepreneurs sont tellement pas à l'écoute qu'ils ont un modèle de ce que devrait être l'entrepreneur. Mmh. Alors, on imagine, il faudrait être comme... alors, on a, voilà, Steve Jobs, un truc complètement coupé de ce qu'on est soi-même. On sait plus ce qu'on est. On sait plus ce qu'on a envie. On sait plus du tout, mais au fond, moi, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est de me sacrifier totalement pour mon boulot ou pas? Je trouve que ça peut être intéressant. Après, il faudrait pas le faire sous le mode du sacrifice, mais se donner en entier. Moi, c'est simple. Je travaille tout le temps. Je suis quasiment pas parti en vacances pendant presque 20 ans, pris par mon travail. Donc, je vraiment, mais ça repose pas sur la pression, l'injonction, le fait de vouloir correspondre à un modèle, mais à quelque chose qui vient du plus profond de soi et qui a une forme de justesse. Et c'est ça qui me semble important. Et nous sommes très démunis à ça parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Quand on est... ça, c'est un autre livre que j'ai écrit, Les Cinq Portes, qui est, à mon avis, peut-être le livre le plus aidant pour les entrepreneurs. Parce que Les Cinq Portes, c'était qu'est-ce qui nous anime le plus profond de nous-mêmes? Est-ce que c'est le désir de voir clair, de la clarté, de comprendre? Ça, c'est la porte bleue. Est-ce que c'est le désir d'agir, de faire? Ça, c'est la porte verte. Le désir d'être en paix et de pouvoir accueillir, c'est la porte blanche. Le désir d'entrer en relation, de la communication, quelque chose de chaleureux, la porte rouge. Ou le fait de que les choses soient pleines, unitaires, complètes, la porte jaune. Et ça, c'est très important de comprendre ce qu'on est, parce que le message qu'on a depuis l'enfance, c'est il faut pas être ce qu'on est. Si vous êtes porte bleue, vous aimez voir clair, que les choses soient ordonnées, et de temps en temps, vous êtes en colère parce que les choses sont pas claires. Eh ben, depuis que vous êtes enfant, on a dû vous dire « Oh, mais pourquoi tu veux tout comprendre? Pourquoi t'es pas plus chaleureux ?» Donc déjà, on vous dit le message, pour être accepté et réussi, il faudrait pas être toi-même. Ben non. Et alors après, on vous dit, mais pourquoi t'es aussi agressif? Pourquoi tu te mets en colère? Tu devrais te calmer. Ben non. Dans les deux cas, on donne une tout à fait information qui empêche d'entrer en rapport à sa propre force. Parce que vous êtes en colère pas parce que vous êtes pas calme. Vous êtes en colère parce que vous avez tellement envie que les choses soient claires et justes que vous ne supportez pas l'injustice. Si vous êtes porte rouge, vous avez vraiment envie du lien, de la relation, de la communication. Donc on a dû vous dire, ah, mais pourquoi t'es tout le temps t'es tout le temps dans les relations, tu devrais être plus concentré ou je ne sais quoi. Donc, on vous fait passer le message que vous êtes en faute. Parce qu'on a toujours ce message que faudrait pas être singulier. Faudrait être comme tout le monde. Mais une fois qu'on sera comme tout le monde, on peut plus rien faire. On peut plus rien réussir. Si je reprends l'exemple des chefs, un chef, il a une identité absolue, unique. C'est-à-dire la manière dont, moi, j'aime beaucoup Anne-Sophie Pic, qui est vraiment, que j'aime beaucoup. Anne-Sophie Pic, elle fait la cuisine comme personne. Elle a été au bout du bout de son intuition, de son hypersensibilité, et c'est comme ça qu'elle est géniale. Pas en disant, je m'empêche d'être comme je suis, je deviens normal, par la volonté, je réussis, mais volonté de quoi? Coupée de rien. Non. Elle laisse tomber, en un sens, la volonté crispée pour se mettre à l'écoute des produits, se mettre à l'écoute de, voilà, comment on peut mettre du safran avec des tomates, qui semble à première vue surprenant, ou du géranium rosa, et comment il y a des mélanges qui ouvrent un nouveau monde. Et c'est pas la volonté, c'est l'écoute qui permet d'avancer et de réaliser des choses. Et
donc, mais on a tellement oublié comment s'écouter, parce que ce que vous disiez tout à l'heure était très juste, et j'ai déjà plein de personnes autour de moi qui m'ont dit, mais moi, je sais pas qui je suis. On a tellement subi d'injonctions, on a tellement entendu les discours des autres et tout, qu'au final, on confond ces voix. Il y a l'enfance, etc., avec la nôtre, et on ne sait plus qui on est.
Non, on ne sait pas qui on est parce qu'on nous a donné le message vraiment fondamental que ce que nous sommes, nous ne devons pas l'être.
Et pour les personnes qui nous écoutent, qui sauraient pas comment faire pour savoir qui ils sont, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner?
Ils lisent mon livre Les 5 portes et qu'ils fassent le test. Il y a un test et puis déjà ils comprendront un peu peut-être quelle est leur porte. Et par rapport à, il y a beaucoup de tests, mais en général ils sont culpabilisants parce qu'on vous dit ah vous êtes comme ça, donc vous êtes introverti ou extraverti. Ben c'est chiant d'être introverti, c'est un peu chiant d'être extraverti. Tandis que ce que je propose n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire toutes les portes sont magnifiques. Le désir d'entrer en relation, le désir de voir clair, le désir de faire, c'est formidable. Mais quand on ne le sait pas, ça se devient du poison. Par exemple, le désir de faire, quand je le reconnais pas, ça devient de l'activisme, où je m'en veux, j'ai l'impression que je suis pas assez intelligent parce que je comprends les choses en les faisant plutôt qu'en les pensant. Mais c'est d'une manière très profonde d'être en rapport à la réalité. Donc c'est ça que je trouve fondamental. C'est vraiment de rentrer dans la profondeur de notre désir le plus profond. Parce que après aussi, il y a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que les gens veulent se définir de manière figée. Je suis comme ceci ou je suis comme cela. Non, c'est plutôt quel est le désir le plus profond qui m'anime et comment je peux m'ouvrir à lui. Vous voyez, le désir de voir clair, c'est pas une identité figée, c'est j'ai ce désir-là, comment je peux le nourrir, comment il peut le devenir fécond. Voilà ce qui me semble préférable. C'est-à-dire vraiment être à l'unisson de ce mystère qui m'habite et qui me porte en avant.
Je me permets de sauter du coq à l'âne, mais j'aimerais parler un peu plus de vous et de votre parcours pour comprendre d'où vient cette soif de partager, cette soif de se poser des questions sur la spiritualité humaine. Est-ce que vous pourriez me dire, tout simplement, où est-ce que vous êtes né, comment était le petit Fabrice? Est-ce que vous étiez déjà tel que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous aviez des traits de caractère? Qu'est-ce qu'on disait de vous?
Alors, je dirais, j'étais hypersensible. Et comme à l'époque, on savait pas ce que c'était assez complexe, puisque j'avais vraiment le sentiment d'être à part, de pas très bien comprendre les règles du jeu et du monde. Et les choses se sont débloquées quand j'ai découvert la philosophie. Là, ça m'a vraiment été une sorte de grande passion, parce que j'avais vraiment le sentiment de quelque chose de vraiment... qui avait eu une vraie incandescence et une remise en question de ce qui me semblait pas satisfaisant, de convenu. Donc la philosophie m'a vraiment libéré, enthousiasmé, apaisé. Et puis la découverte de la méditation il y a 30 ans. J'ai découvert la méditation auprès d'un neuroscientifique qui était un type absolument génial. Et ça a été vraiment... et après, avec des maîtres tibétains... Et voilà, donc j'étais un des premiers à m'engager à transmettre la méditation à partir de cette tradition d'un point de vue laïque quand ça se faisait pas encore. Et je dirais, voilà, ça c'est un peu deux défis qui ont été importants pour moi, donc la philosophie et la méditation. Et puis, je suis devenu éditeur et ça m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup, beaucoup de gens qui ont nourri ma réflexion, beaucoup de grands thérapeutes. Maintenant, j'ai une chaîne YouTube qui est un peu devenue une référence où j'invite beaucoup de grands thérapeutes, de grands médecins, d'autres personnes aussi, mais disons, voilà, beaucoup de gens qui sont en rapport à la souffrance et qui ont essayé de réfléchir à comment la dépasser. Ça a toujours été un sujet qui me passionne. Donc voilà, je dirais, il y a ces trois fils qui nourrissent mon propos aujourd'hui, la philosophie, le rapport à la méditation et le dialogue avec beaucoup de mes contemporains qui sont engagés dans essayer de comprendre la souffrance humaine.
On va y revenir, mais avant ça, vous avez utilisé le mot hypersensible, et effectivement, alors à l'époque, je pense que c'était un mot qui n'existait peut-être même pas, mais même aujourd'hui, en réalité, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est qu'être hypersensible, peut-être même avec votre exemple, et puis comment se reconnaître quoi quand on l'est?
Alors, bon, ça, c'est, là, je renvoie les gens à mon autre livre, Suis-je hypersensible, où j'ai essayé, qui est devenu un peu l'ouvrage de référence sur l'hypersensibilité. Je crois que c'est assez simple. L'hypersensibilité se manifeste par plusieurs traits. Le premier trait, c'est qu'il y a au niveau sensoriel, il y a des choses qui sont trop. Vous sentez peut-être des odeurs que les autres ne sentent pas et qui peuvent vous déranger, ou ça peut être des sons. Moi, quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de mal avec les vêtements, que je trouvais souvent trop serrés, les cagoules. Personne n'a connu ça, mais si on a mon âge, on a connu les cagoules, c'était juste l'horreur. J'avais l'impression d'étouffer. Donc vraiment, voilà, l'hypersensibilité au niveau sensoriel, au niveau...
C'est physique, quoi, je veux dire, c'est pas physique,
sensible,
émotionnel.
Vous êtes la lumière, il n'y a pas de lumière, il y a trop de lumière, il y a les odeurs, donc c'est vraiment, vraiment physique. Premier point. Deuxième point, émotionnel. Vous avez l'impression que c'est les montagnes russes. Vous vivez les émotions avec beaucoup d'intensité. En haut comme en bas, vous êtes très joyeux, vous êtes très triste. Donc voilà, vous êtes un peu... Troisièmement, au niveau empathique, vous prenez l'ascenseur avec un collègue de bureau qui va pas bien et vous sentez pas bien. Vous êtes devenu une éponge. Vous n'êtes même pas rendu compte que c'est pas du tout votre angoisse, mais que vous avez absorbé l'angoisse de quelqu'un d'autre. Donc vous avez une forte empathie qui est formidable, mais qui peut aussi vous jouer des tours. Quatrièmement, vous avez une grande capacité de créativité. Même si beaucoup d'hypersensibles ne le savent pas parce qu'ils l'ont bloqué, mais votre capacité à percevoir plein de choses fait que vous avez la capacité d'inventer des solutions, d'être créatif. Les hypersensibles, voilà, sont vraiment très créatifs. Cinquièmement, le jeu social vous laisse un peu indifférent. Vous comprenez pas trop les jeux de pouvoir, tout ça. Vous êtes plus pour l'empathie, le fait que la collaboration. Certains hypersensibles au boulot, les querelles, ils ont envie d'avancer, ils sont pris ils ont envie que ça avance et que ça grandisse. Et sixième point, au niveau cognitif, c'est un peu un esprit en pop-corn. Vous avez des pensées qui vont dans tous les sens. Votre esprit n'est pas toujours logique, mais parce que vous percevez immédiatement plein de choses différentes. On sait aujourd'hui que l'esprit de l'hypersensible filtre moins. Notre cerveau filtre. Voilà, mon cerveau filtre. Parce que voilà, quand je suis au café, par exemple, il y a plein de bruit, j'entends quelqu'un, donc mon cerveau filtre pour que j'entende que la conversation. Après, si on enregistre, des fois, on n'entend plus rien parce que l'appareil, à la différence de l'être humain, ne filtre pas et donc le bruit de la voix avec le bruit autour fait qu'on n'entend pas. Donc l'hypersensible, le cerveau humain permet de filtrer et le cerveau de l'hypersensible filtre un peu moins que les autres. Et donc, comme il filtre moins, il perçoit plus de choses. Et donc, c'est à la fois difficile parce qu'il est submergé, et c'est des fois un atout parce que c'est ça qui lui permet de percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Et donc, il y a eu, dans les temps préhistoriques, on sait qu'il y avait les hypersensibles étaient déjà là. Il y a toujours entre 15 et 20% de la population qui est hypersensible. Les hypersensibles, ce sont eux qui, en temps de guerre, perçoivent les signaux de danger que les autres ne perçoivent pas. Et en temps de paix, c'est peut-être les hypersensibles qui vont percevoir « Ah, telle plante peut soigner telle chose. » Et donc, aucune société ne peut vivre sans les hypersensibles. Les hypersensibles sont, au fond, l'élément qui permet à une société de ne pas se fossiliser. Donc, les hypersensibles vont avoir l'impression d'être le poil à gratter, qui empêche la situation de fonctionner. Mais en réalité, la société en a beaucoup besoin. Ce qui fait que j'explique souvent qu'un hypersensible ne doit pas confondre le rejet et la résistance. Quand je suis dans une réunion, en tant qu'hypersensible, je vais immédiatement créer de la résistance parce que j'ai des nouvelles idées, parce que j'aime pas le conformisme, parce que ça va dans tous les sens. Donc, j'arrive à une réunion et je vais dire, ah, mais il faut qu'on fasse comme ça, mais pourquoi on fait pas comme ça? Donc, première réaction, les gens, ils ont envie d'être tranquilles, ils disent, merde, il nous fait chier encore. Mais la résistance, les hypersensibles vont devoir prendre cette résistance pour du rejet, pas du tout. Je bouscule les gens, donc il faut que j'apprenne à être pédagogue, à expliquer les choses et à emmener mes équipes ou les équipes avec moi, parce que j'ai tendance à être un peu visionnaire, à sentir qu'il faut aller dans telle direction. Et des fois même, j'arrive même pas à l'expliquer parce que je perçois là comme ça, avec beaucoup de clarté, qu'il faut aller dans cette direction. Donc voilà un peu ce qu'est l'hypersensible. Et un des défis que l'hypersensible, particulièrement quand il essaye de créer des choses auxquelles il doit faire face.
Je suis étonnée dans ce que vous dites, que ça soit 15 à 20% de la population, c'est quand même pas si faible.
Non, c'est pas si faible, mais comme la plupart du temps, on leur a dit à tous les hypersensibles que c'était une faute d'être hypersensible, beaucoup d'hypersensibles se sont sentis rejetés et n'ont pas cultivé leur don. Parce que, après, on parle pas mal de l'hypersensibilité, mais je suis assez critique sur beaucoup de choses qu'on écrit sur l'hypersensibilité. Parce que j'ai écrit mon livre parce que j'en avais marre qu'on a l'image de l'hypersensible comme pauvre petite chose qui doit se protéger tout le temps. Non, c'est pas une pauvre petite chose. Je dis Anne-Sophie Pic, elle est hypersensible, c'est pour ça que c'est la chef la plus étoilée. Donc, vous êtes pas du tout... Et moi, si je vais voir un médecin, je veux qu'il soit excellent, mais je veux mieux qu'il soit hypersensible parce qu'il aura beaucoup plus de capacité de... Donc, c'est pas du tout... l'hypersensible n'est pas une pauvre petite chose, mais s'il ne travaille pas, s'il fait pas quelque chose de son don, il va juste sentir qu'il est trop ceci, trop cela, et il va être malheureux. Donc, l'hypersensible, c'est très important. Ce qu'on dit pas du tout, c'est qu'un hypersensible doit apprendre à travailler son don, à cultiver son don. Et donc là, on rejoint ce qu'on avait dit sur les cinq portes. Il faut savoir un peu qu'est-ce qu'il est, quel est son désir, pour pouvoir cultiver à partir de son désir ce qui est important pour lui. Et c'est ça qui va faire la différence pour un hypersensible. Parce que sinon, il a juste le message, je ressens trop de choses. Ah ben, si je ressentais moins, je serais heureux. Je ressens trop d'émotions. Je suis trop empathique. J'ai trop d'idées. Et donc, il faudrait que je sois moins. Ben non. être moins.
Avec peut-être même une dimension en plus sur la masculinité. Bon, je fais peut-être un, voilà, un raccourci, mais disons que je pense qu'il y a aussi une image de l'homme est censé être un peu un dur à cuire, viril, etc. Et donc, on n'est pas censé avoir trop d'émotions quand on est un homme. Après, peut-être que.
Oui, mais après, pour les femmes, c'est
compliqué. Il peut y avoir ce stéréotype.
Oui, mais pour les femmes, c'est aussi compliqué parce que l'hypersensibilité a été identifiée à une forme d'hystérie.
Ouais.
Donc, il y a eu tout un rejet de l'hypersensibilité, et pour les hommes, parce que ça c'est pas viril, et pour les femmes, parce que être hypersensible, ce serait, voilà, le côté le plus nul du féminin, et donc, beaucoup de femmes ont envie de réussir, trouver leur place et d'avoir une certaine autorité, se disent que leur hypersensibilité est un obstacle, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, dans mon livre, je parle beaucoup, voilà, de la chasse aux sorcières et de beaucoup d'éléments. Les sorcières étaient sans doute des figures d'hypersensibilité, et à un moment, on n'arrive plus à comprendre cette hypersensibilité, parce que si le mot est récent, on trouve des traces de compréhension de l'hypersensibilité à toutes les époques. Dans mon livre, je montre qu'on trouve déjà chez Aristote une description très fine de l'hypersensibilité, donc c'est pas du tout un phénomène nouveau. Mmh. Il a juste eu des noms différents à différentes époques. Moi, j'aime bien le mot hypersensible, parce que je trouve qu'il y a des gens qui sont hyper cons, il y a des gens qui sont hyper chiants, il y a des gens qui sont hypersensibles, donc j'aime bien parce que c'est léger comme détermination. Donc, et je trouve que voilà, il n'y a pas à être diagnostiqué hypersensible, comme il y a des gens qui sont homosexuels. Pendant longtemps, on a dit que c'était une maladie, mais c'est absurde. Mmh. On voit bien aujourd'hui qu'on est comme ça et que c'est très bien comme ça, que c'est que le regard de la société qui a fait que certains homosexuels ont pu se sentir coupables, mais que c'est absolument faux. Je pense que l'hypersensibilité, c'est de la même manière. On est comme ça. On sait aujourd'hui qu'on est comme ça. Les gens croient aussi que ils sont hypersensibles à cause d'un trauma, que c'est,
ouais, c'est pas une maladie. Culturel, quoi.
Mais c'est pas du tout une maladie. C'est une disposition qui mérite d'être explorée et de se comprendre. Parce qu'on est un hypersensible, c'est un peu comme si on était sur l'autoroute en sens inverse. On roule et on se dit « merde, je suis en danger ». Tout le monde vous dit « mais non, calme-toi, sois zen ». Mais vous voyez bien que vous êtes en danger. Évidemment, vous avez un mauvais GPS qui vous donne de mauvaises indications parce que ça ne vous correspond pas du tout. Un hypersensible, par exemple, n'arrivera jamais à se calmer puisqu'il il vit les choses avec intensité. Donc, il ne faut pas qu'il se calme, mais il faut qu'il chevauche son énergie et qu'il apprenne à faire de son énergie quelque chose de créatif et de positif et d'heureux et d'inventif.
Et donc la philosophie, dans votre cas, et la méditation vous ont aidé à, bon, peut-être mettre des mots, mais aussi réussir à canaliser cette énergie pour qu'elle devienne une énergie créatrice et positive.
Alors la philosophie, ça permet de comprendre le monde, ça permet de comprendre la violence de notre monde. Quand on a commencé notre discussion pour essayer de montrer l'obsession de performance aujourd'hui est le problème, parce que c'est une performance abstraite, théorique, désincarnée, qui instrumentalise les gens, qui fait qu'on s'instrumentalise soi-même. Ça, c'est vraiment en tant que philosophe que j'arrive à comprendre cela. Déjà, Nietzsche avait commencé à décrire le phénomène, et puis Husserl, et puis beaucoup de philosophes au XXe siècle ont décrit Bergson, ont décrit le délire qui prend place, une forme de fausse rationalité désincarnée qui est en train de nous détruire. Donc ça, en tant que philosophe, ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'un philosophe, c'est d'abord quelqu'un qui essaie de lire les signes dans la société de ce qui fait souffrance, et qu'à chaque époque, il y a des souffrances différentes, et que le philosophe, au lieu de dire juste, voilà, il y a de la souffrance, il essaie de décrire très précisément ce qui se passe. Moi, par exemple, j'intéresse beaucoup pourquoi, aujourd'hui, depuis 20 ans, les gens souffrent du burn-out, alors que mes grands-parents n'avaient pas du tout ces problèmes-là, ils avaient d'autres problèmes. On voit bien que c'est donc que mes grands-parents travaillaient très dur, mais ils avaient le sentiment d'avoir bien travaillé, ils avaient un sens de satisfaction. Aujourd'hui, on n'a plus ce sens de satisfaction. Et donc, le burn-out, c'est vraiment l'instrumentalisation de soi-même. Et je pense que nous considérons chacun d'entre nous comme une start-up dont on doit potentialiser au maximum le rendement. C'est ça qui est complètement dingue. Nous ne sommes pas une start-up, nous sommes des êtres humains. Et cette instrumentalisation de soi-même est devenue fausse, dangereuse, et nous empêche donc de nous accomplir. Donc ça c'est vraiment en tant que philosophe. Et en tant que méditant, j'ai pu découvrir que quand on s'engage dans la pratique de la méditation, on arrive à se poser dans une sorte de confiance originaire, première, non fabriquée, qui donne de la force et de l'allant, et de la joie. Et donc la méditation, c'est vraiment ça. Alors évidemment, ceux qui ne me connaissent pas ne savent peut-être pas que j'ai beaucoup dénoncé ce qui est devenu la méditation aujourd'hui, une technique de gestion de soi pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc je suis tout à fait opposé. Comme dans le cinéma, il y a du cinéma de propagande, du cinéma industriel et puis du cinéma d'art et d'essai, ben de la même manière, il y a de la méditation de propagande et puis il y a de la méditation qui aident les gens. Mais il y a de l'imitation qui n'aide pas du tout les gens. Par exemple, on voit aujourd'hui beaucoup dans les écoles, certaines écoles font des méditations tout à fait géniales, extraordinaires, mais il y a des écoles où les enfants trop turbulents sont privés de récréation et ont un cours de pleine conscience pour se calmer. Ce qui me semble tout à fait nuisible et néfaste. Parce qu'un enfant n'a pas besoin d'être calmé, il a besoin d'être écouté, il a besoin d'être entendu. Et donc, je dirais, la méditation, c'est une manière de, d'écouter ce qui nous arrive, d'entrer en rapport à ce qui nous anime, pour retrouver le souffle le plus vivant, le souffle vivifiant, ce qui est le plus intéressant en nous. Et c'est cette approche de la méditation que j'ai défendue. J'avais écrit le Que sais-je sur la méditation pour les nuls, et j'ai fondé la principale école de méditation aujourd'hui dans le monde francophone, qui est une sorte de réseau ou de village de gens qui essayent de s'engager à être des lumières dans un monde qui en manque beaucoup.
Je voulais rebondir justement sur la méditation parce que, comme vous le dites, la méditation est à la mode depuis un certain nombre d'années maintenant. Et pourtant, vous déconstruisez les idées reçues qu'ont beaucoup de jeunes pratiquants, d'ailleurs de moins jeunes pratiquants, sur la méditation. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles seraient peut-être quelques principales idées reçues, fausses, qu'on a sur la méditation, en tout cas cette méditation à la mode un peu cool et dans l'air du temps?
Le problème majeur, c'est l'idée que méditer, ça serait être calme. Et que méditer, c'est faire le vide dans sa tête. Que méditer, c'est être zen. Donc c'est extrêmement culpabilisant parce que personne n'est jamais zen. Donc vous dites merde, je suis nul. J'essaye de, parce que voilà, donc la méditation vous culpabilise, est-ce que vous dites merde, j'y arrive pas, j'ai trop de pensées, j'ai trop d'émotions, je suis énervé, je trouve que le monde va mal, je suis sensible, et on vous dit que vous ne devriez pas sentir ça. Donc c'est vraiment, vraiment une catastrophe. Donc j'avais proposé de dire méditer, c'est se foutre la paix. C'est ne rien faire d'autre qu'entrer en relation avec ce que l'on vit, comme on le vit. D'arrêter de se torturer pour essayer d'atteindre un état imaginaire et complètement, et pas souhaitable en réalité du tout. Et donc j'oppose, dans Foutez-vous la paix, le calme et la paix. Quand la mer est calme, les bateaux n'avancent plus et c'est une forme de mort. Mais la paix, on peut être en paix et avoir du chagrin. On peut être en paix et être énervé. Et c'est important, parce que si on veut supprimer le fait d'être énervé, le fait d'avoir du chagrin, le fait d'être enthousiaste, ben au fond, on se prive de beaucoup d'indications, parce que souvent, ça nous dit quelque chose. Voilà, je parlais à quelqu'un aujourd'hui qui me disait, elle a rencontré quelqu'un, et elle prend le train pour rentrer, et elle sent dans son corps qu'elle n'est pas bien. Et c'est un signe. Donc, si elle dit « Oh, il faut que je me calme », elle perdrait l'occasion d'avoir une indication très précieuse qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on reçoit beaucoup d'indications qui peuvent nous guider comment orienter notre vie, quelles décisions on doit prendre. Mais si nous coupons de ça, c'est vraiment extrêmement problématique. Donc, méditer, je crois que ça, les idées fausses, c'est tout ce qui va dans la direction du contrôle. La même chose qu'on disait au début, cette fausse idée que quand j'aurai tout contrôlé, je serai heureux. Quand j'aurai trop contrôlé, je me serai coupé de mon humanité et je ne serai plus heureux. Je suis heureux parce que j'apprends à être en lien, en relation avec la vie. L'image la plus juste de ce qui me semblerait le bonheur ou la justesse, ça serait d'être comme le surfeur. Le surfeur apprend à être en rapport à la vague. Et du reste, c'est intéressant parce que le surf était d'abord une pratique religieuse et politique, puisque c'était les rois qui montaient sur une planche et on voyait à leur capacité d'aller avec les éléments. Donc si on veut contrôler les éléments, ben on tombe, ça marche pas du tout. Celui qui veut contrôler l'eau, ben il a aucune chance. Et celui qui fait rien, il tombe aussi. Donc celui qui réussit à surfer, c'est celui qui est dans ce qu'on pourrait opposer au contrôle, la maîtrise. Et la maîtrise, c'est justement voilà, avoir une certaine expérience qui permet d'entrer suffisamment en relation pour s'ajuster comme il faut moment après moment. Et c'est ça, vous voyez, pourquoi c'est pas la volonté. C'est pas la volonté crispée. Je décide de tenir tête à la mer. Ben là, j'ai aucune chance, je vais tomber. Mais j'écoute la mer, je me lie à elle. J'essaye d'ajuster mon corps aux vagues. Et là, se crée quelque chose de magique, une forme de grâce. Et c'est ça qui, à mon avis, permet à la fois la réussite, mais aussi le bonheur, mais aussi l'accomplissement.
Donc le contrôle est une illusion et la maîtrise est reine, mais une nécessité. C'est ça, je trouve aussi qui est intéressant.
La maîtrise, c'est formidable, parce qu'être maître, c'est formidable. On dit un maître cuisinier. Le cuisinier qui voudrait contrôler, il ne ferait jamais à manger, parce que la nourriture, la cuisson, s'il dit « je cuis tant de temps », c'est jamais exactement pareil, parce que les tomates, elles ont un peu plus de maturité, donc un bon cuisinier, il est absolument à l'écoute du produit, de ses tomates, et il faut qu'il s'ajuste tout le temps. Tandis que dans le contrôle, vous ajustez pas. Vous êtes enfermé comme dans un, comme sur des rails.
Et ça, c'est dans une illusion, dans une illusion en plus de compétences ou de contrôle, alors qu'en réalité,
une illusion de contrôle plutôt que de compétences, parce que les compétences, c'est bien, les compétences, c'est du côté de la maîtrise. Ouais, c'est bien d'avoir des compétences. D'avoir des compétences, c'est parce qu'on a de l'expérience. Les compétences sont liées à une expérience et à un travail où on a intégré quelque chose dans son propre corps. Donc c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'on sait, on ne sait même plus comment on le sait, mais on le sait. Donc c'est ça, la compétence, elle est encore une fois pas du côté du contrôle, mais de l'assimilation. Une vraie compétence, et vous ne savez même plus comment vous savez, mais vous le savez. Moi, dans mon métier, je suis éditeur. Comment j'ouvre un manuscrit et alors ça marche, on peut se tromper, mais souvent, je sens. Quelqu'un me demandait l'autre jour comment on fait. On sent, là, il se passe quelque chose. Moi, j'ai trouvé beaucoup de nombre de très grands best-sellers. Vous lisez quelques lignes et vous en croyez pas. D'un seul coup, c'est comme si l'atmosphère change. Vous sentez, il se passe un truc. Ça, c'est ça, le métier. Parce qu'à force d'en avoir lu, encore une fois, c'est pas une science exacte, donc on peut se tromper. Mais à force d'en avoir lu, de connaître son métier, d'avoir un intérêt, une passion, on a comme des antennes et on dit, ah oui, là, je sens. Et c'est comme ça que j'ai lu des trucs. J'ai publié, par exemple, le livre de Marie Kondo sur la magie du rangement. Le rangement, j'en ai. Mais alors, on voit chez moi, Kondo dit qu'il ne faut pas avoir de livre chez soi. Je n'applique pas du tout ces principes. Mais quand j'ai lu le livre, c'est par la tête. Si j'étais dans le contrôle, je me dis, le rangement, ce n'est pas intéressant, ça ne va pas intéresser les gens. Je ne lis même pas. J'ouvre le livre et je sens qu'il se passe un truc. Après, je comprends que ça parle d'autre chose. Ça parle d'amour, il y a une écriture, il y a une vérité existentielle de cette femme. Et j'étais, complètement enthousiaste. Et j'ai pas été surpris que le livre a été un immense succès dans le monde entier parce qu'il parlait d'autre chose. Et c'est ça dans la vie pour tout le monde. Pour tout le monde, au fond, ce qu'il faut cultiver, c'est cette capacité d'être vraiment en relation avec le réel. Et c'est l'intensité de notre relation au réel qui devient fondamentale, libératrice, qui donne des pistes. Et c'est ça la maîtrise. La maîtrise, c'est qu'on épouse quelque chose du réel. Alors que le contrôle, c'est une négation du réel.
Comment est-ce que vous êtes devenu éditeur, Fabrice? Quelles ont été les étapes qui ont fait que vous vous êtes lancé dans cette
Le pur hasard.
Cette vocation.
Quand j'étais étudiant, on m'a proposé de lire des livres. Et puis comme j'avais une connaissance assez fine de la méditation, je sentais pour tous ces livres de ce monde qu'on ne connaissait pas encore, qu'on ne sait pas comment appeler, santé, éducation, spiritualité, développement personnel. On ne savait pas trop. C'était un peu le début. Et je sentais, donc j'ai commencé à faire ça. Puis j'ai créé chez Pocket, la collection Évolution, qui était la première collection en poche qui s'occupait de ces sujets. Et puis voilà, et puis j'ai continué. Donc je fais plein de choses, vous voyez, j'écris mes livres, je dirige l'école de méditation, et puis je m'occupe de la publication de ces livres. Et donc j'ai publié beaucoup des plus grands auteurs chez Pocket.
Bah, je vois ça, que vous ne rentrez pas dans une case et que vous êtes multicasquette.
Voilà, je suis... on a parlé de ça, mais je suis... J'ai inventé une vie qui correspond à ce que je suis.
Qu'est-ce que vous pensez, Fabrice, de cet intérêt renouvelé pour la spiritualité? Alors, renouvelé, je ne sais pas, mais notamment des spiritualités orientales, et puis toute cette folie, le mot est un peu fort, mais cet engouement pour le développement personnel. J'en parle à mes parents, qui sont un peu plus âgés, qui ont mon papa à 80 ans, ils me disent, mais c'est fou comme vous posez des questions, vous les jeunes, nous à notre époque, c'était pas comme ça. Et donc, j'aurais aimé avoir votre sentiment.
Alors d'abord, sur ce sujet. Pas tout à fait vrai, parce que quand on était la génération d'avant, on a quand même eu des questions existentielles, il y en a eu à toutes les époques, et quand même, le succès de l'œuvre d'un Camus, d'un Roland Barthes, sont quand même... Barthes, il publie un livre, Fragment d'un discours amoureux, qui est quand même une manière de donner droit aux sentiments amoureux. On ne sait pas pourquoi les philosophes aujourd'hui sont devenus ultra spécialisés. Il n'y a plus vraiment de philosophes comme Camus ou... Donc, je dirais, il y a toutes les époques qui a eu une forme de questionnement. Et la spiritualité, le retrait du côté institutionnel de la religion catholique, il y a eu un renouveau de la spiritualité. Spiritualité avec un retour aux propres sources spirituelles du christianisme qui étaient un peu perdues de vue, avec la redécouverte de Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, et puis après la découverte de spiritualité orientale. Donc je dirais, les spiritualités orientales, on les découvre dès les années 20-30, et puis il y a un grand boom dans les années 50 et 60. Donc je dirais, à chaque époque, comment faire pour ne pas être juste un outil de production technique d'une société, s'est posé. Alors c'est sûr qu'il y a quand même eu le grand changement qui a été la fin, un peu, disons, de l'institution religieuse, qui a ouvert la porte, disons, à la spiritualité. Si on entend la spiritualité comme n'étant pas liée au religieux, mais vraiment cette manière d'être à l'écoute de quelque chose de plus grand, cette dimension d'ouverture. Et donc on peut dire que c'est un peu à l'antipode de la religion institutionnelle, avec ses règles, ses dogmes, quelque chose d'assez fermé. Si on prend la distinction là de Bergson entre religion ouverte et religion fermée. Et puis, il y a eu aussi la crise des idéologies. Il y a 30 ou 40 ans, il y avait la préconception que s'occuper comme ça de ses problèmes, de soi-même, était une trahison de la question sociale. Avec l'effondrement des idéologies, avec le retour sur la violence qu'a été l'idéologie, qu'on voit, voilà, au fond, les gens qui sont engagés dans le marxisme, puis dans le stalinisme, au nom du bien commun, et qui ont participé plutôt à la souffrance et à beaucoup de souffrances, il y a eu une remise en cause, en partie après la chute du mur de Berlin, qui a remis en question beaucoup de choses. Donc je dirais, on a vu que ça a été faux aussi, que c'est pas parce que je me pose des questions sur comment être plus ouvert et faire face, par exemple, au trauma que j'ai pu vivre, que c'est pas pour ça que je vais pas m'occuper de la société. Au contraire, qu'il y a là, il y a une articulation très profonde. Et puis, troisième chose, beaucoup de recherches en neurosciences ont énormément permis de comprendre et de sortir de schémas erronés. On sait aujourd'hui, par exemple, de manière quand même scientifique et établi à quel point la violence faite aux enfants est traumatique, que c'est compliqué de sortir du trauma, que nous sommes souvent victimes de trauma, on comprend mieux comment ça fonctionne, quelles sont les formes de guérison des traumas, et on comprend aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas, que la violence faite aux enfants a des séquelles. On croyait pendant longtemps que l'enfant n'ayant pas de mémoire frappait un enfant, n'avait aucune séquelle, on voit aujourd'hui à quel point ça a conduit à énormément de douleurs et de souffrances. Donc je dirais, l'intérêt pour toutes ces questions, c'est difficile de nommer, repose sur un changement très profond de paradigme. Après, c'est comme tout. Dans ce qu'on appelle le développement personnel, il y a le pire comme il y a le meilleur. Mais c'est un peu comme en politique, il y a le pire et le meilleur. Enfin, il y a plutôt le pire. Hein, en développement personnel, voilà, il y a beaucoup de pires. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui sont complètement erronées. Voilà, plein de pseudo-coachs qui répètent exactement toujours la même chose avec des formules, il faut que, avec des nouvelles injonctions, soyez calme en 20 séances, soyez. Donc tout ça n'aide absolument personne et au contraire, fait des ravages. Mais c'est comme partout. Il y a des gens qui travaillent, qui sont sérieux, qui ont une forme d'excellence. Et puis il y a des gens qui bossent pas et qui répètent des trucs et ça aide personne. Donc là, la question. Mais ça, c'est pas la question du développement personnel. Il y a une sorte de confusion. Ça, c'est la question comme partout. Voilà, il y a des gens qui bossent, qui tentent de penser, de se poser des questions, d'inventer. Et puis, voilà, il y en a d'autres qui bossent pas. Et donc, c'est pas aussi juste. Mais dans le temps, il y a une grande révolution qui s'est ouverte.
Et à chacun d'avoir le discernement de faire la part des choses entre les deux.
Voilà, et de voir qu'est-ce qui est bidon et qu'est-ce qui est vraiment aidant. Et ce qui est vraiment aidant, c'est toujours quand même quelque chose qui repose sur une réécoute de soi-même et une libération d'un certain nombre de préconceptions tout à fait erronées. Donc il y a beaucoup d'études. Vous voyez, moi quand j'étais enfant, on me disait « souffre, travaille dur et tu seras heureux plus tard ». Maintenant, on sait très bien, toute la recherche avec la psychologie positive nous a montré que c'est l'inverse. C'est parce que je suis heureux en faisant ce que je fais que je vais réussir. Et pas parce que je souffre que je serai heureux. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui ont été très très bien étudiées. Moi, j'ai beaucoup introduit en France la psychologie positive, qui est souvent mal compris, qu'on confond avec la pensée positive, ça n'a strictement rien à voir. La pensée positive, c'est juste croire que si je pense des choses positives, tout va aller bien, tandis que la psychologie positive, qui peut-être a été mal nommée, c'est l'idée de voir qu'est-ce qui favorise la croissance, le développement. Et il y a eu beaucoup d'études, moi j'aime beaucoup le travail de Tal Ben-Shahar, dont j'étais l'éditeur, et qui était professeur à Harvard sur le bonheur, et qui montre de manière très sérieuse et documentée, et qui lève beaucoup d'idées reçues. Et je crois que c'est ça qui a été aussi très fort pour beaucoup de gens, c'est se découvrir que être heureux, sortir de ses blocages, de ses traumas, qu'on n'est pas enfermé par notre passé, qu'on peut apprendre, et qu'au fond, un être humain, il a à apprendre. On a à apprendre à être parent, on a à apprendre à être en relation, on a à apprendre, et que tout s'apprend, et que c'est vraiment apprendre à manger, apprendre comment, quel est le régime alimentaire qui nous correspond le mieux, apprendre à savoir qui on est, apprendre à guérir voilà les blessures de nos parents. Tout ça, c'est des choses qui vaillent la peine d'explorer.
Y passer un peu de temps. Fabrice, justement, le temps passe et j'aimerais terminer par quelques questions personnelles. La première, c'est est-ce que vous avez dans votre vie vécu un grand échec qui a été formateur, un échec qui est un peu votre plus bel échec, si je puis dire, au sens où c'est celui qui vous a appris la chose la plus importante et que vous pourriez nous décrire?
J'ai pas vraiment vécu un échec, mais j'ai vécu une crise qui a été... J'étais dans une école de méditation quand j'étais jeune, et à un moment, j'ai senti que ça tournait au vinaigre, que ça devenait un peu sectaire. Et ça a été vraiment un grand drame parce que j'avais été formé, j'avais beaucoup de reconnaissance de tout ce que j'avais appris, mais je sentais que ça tournait au vinaigre et que c'était pas la bonne direction. Qu'il fallait laïciser, qu'il fallait laisser tomber tout un ensemble de fatras exotiques qu'on confondait, les gens confondaient l'exotisme avec le vrai sens de la tradition méditative. Et donc ça, c'était une crise très très forte. Je me suis vraiment demandé... J'avais vraiment l'impression que dans quoi que je fasse, j'allais trahir. Si je partais, je trahissais ce que j'avais reçu. Si je restais, je trahissais ce que j'avais reçu. Donc, ça a été un des moments les plus difficiles, je crois, de ma vie, puisque bon, je suis parti. J'ai écrit le livre à ce moment-là, Risquer la liberté, qui dit bien ce que j'ai dû faire. Mais là, j'avais vraiment l'impression que à la fois que je trahissais et que je perdais tout ce qui m'intéressait, puisque ce qui m'intéressait, c'était quand même d'établir un monde autre que le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire, enfin, autre que le monde juste du calcul et de la rentabilité, un monde d'amitié et poétique, que je trouvais quand même là, même si je trouvais qu'il était corrompu. Et puis finalement, j'ai commencé, je savais pas, j'avais l'impression que j'allais tout perdre, et puis j'ai commencé à enseigner, et puis aujourd'hui, voilà, j'ai recréé un autre, quelque chose d'autre qui est devenu très juste. Pendant longtemps, je me sentais, voilà, j'avais là, pour tout le monde, j'étais quelqu'un qui avait un peu trahi. Puis, 15 ans plus tard, tout ce que j'avais vu s'est révélé réel. Le mettre en question s'est avéré quelqu'un qui a abusé de son pouvoir et sexuellement, ça a explosé et l'organisation s'est un peu effondrée. Et donc, rétrospectivement, ce que j'ai fait est apparu comme une manière d'être fidèle. Mais sur le coup, j'avais vraiment l'impression de trahir et de perdre tout le sol que j'avais. Donc voilà ce qui a été un moment un peu déclencheur mais qui a été un moment majeur dans ma vie.
Et qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement de s'écouter encore une fois de plus?
J'en ai tiré qu'il faut risquer la liberté, que dans la vie, il faut passer par des moments où tout s'effondre. C'est un autre titre de mes livres, ça. Comment rester serein quand tout s'effondre? Il y a des moments dans la vie où tout s'effondre et c'est pas la fin du monde. Ça fait partie de l'existence. On a tous un moment où quelque chose s'effondre et c'est l'occasion de reconstruire autrement.
Je suis sûre que ça parlera à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Une autre question pour vous, Fabrice. S'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment?
Alors moi, quand on me pose la question, je referais tout. Parce que quand je vois les choses autrement, je ferais avec plus d'attention, avec plus de précision. Je crois vraiment que...
Souvent, on me dit rien. Donc là, vous êtes original.
Moi, je pense que je comprends pas les gens qui disent rien. Moi, si j'étais à refaire, ben oui, j'essaierais d'être plus juste, de faire moins de bêtises, d'être moins... Il y a des moments où j'étais un peu brutal, il y a des moments où... Non, j'essaierais... Ah oui, je serais content de faire mieux. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Donc moi, je referais beaucoup, beaucoup de choses.
Une autre question pour vous. Qu'est-ce que vous trouvez beau? Au sens métaphorique, au littéral, bien sûr.
Alors, ce que je trouve beau, c'est les êtres humains, dans leur humanité, quand ils arrêtent de faire semblant, de pas vouloir être humain et d'essayer d'être comme des robots, mais quand ils essayent d'être humains, je trouve que c'est très beau. Ce que je trouve très beau, c'est le surgissement de la nature dans son éclosion sans cesse neuve. Et après, ce que je trouve beau, c'est beaucoup d'œuvres d'art, qui est la grande passion de ma vie.
Dans toutes les périodes, tous les...
Oui, j'aime beaucoup...
Tous les médiums, les médias.
J'aime beaucoup l'œuvre de Nicolas Poussin et de Matisse, par exemple. Et de Cézanne, et... Mais de Bach, de Mozart, de Beethoven.
Est-ce qu'il y a quelque chose, à l'inverse, qui vous irrite profondément?
La laideur. La laideur, oui, je trouve que c'est dommage. Oui, ça me fait beaucoup souffrir.
Qu'est-ce que vous voulez dire par la laideur?
Maintenant, partout où on va, il y a une sorte d'industrialisation du mauvais goût. Ces abords des villes complètement détruites. Je trouve que c'est vraiment... Donc ça, je trouve ça douloureux. Et après, la violence qui est faite aux êtres humains. Je trouve que c'est qu'on empêche aujourd'hui les professeurs de faire leur métier de professeur, qu'on empêche les soignants de faire leur métier de soignant, mais dans tous les métiers, c'est un peu ça. Je prends les deux parce que c'est tellement frappant. C'est-à-dire que je travaille beaucoup avec les soignants, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai jamais vu un soignant qui me dit qu'il n'aime pas son métier de soignant, mais ils me disent qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils arrêtent parce qu'on les empêche de faire leur métier. Et pour les profs, c'est pareil. Et je trouve que la destruction du système de soins, la destruction de l'éducation... me semble faire entrer notre pays dans une forme de barbarie. Et je trouve ça terrible.
Alors, vous me faites une transition triste, mais néanmoins pertinente, parce que ma prochaine question, c'est est-ce que vous avez une croyance qui est controversée? C'est-à-dire que vous constatez globalement que le monde autour de vous, ça peut être en France, ça peut être à l'échelle mondiale, bien sûr, ne la partage pas.
Ah oui, je pense que l'art moderne, et particulièrement, par exemple, la musique moderne, de Schoenberg, de Stockhausen, c'est formidable. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent ça.
C'est vrai.
Et moi, je trouve que c'est génial.
Il faut être initié.
Moi, je ne trouve pas. Je trouve que c'est la seule chose qui n'a rien à comprendre. C'est complètement libre. Alors voilà, mais j'ai bien conscience que c'est très rare. Et moi, je suis dans un état de joie, mais alors, c'est dingue, extatique. Je rentre en transe, c'est juste... Et j'aime beaucoup parce qu'il n'y a rien à comprendre. Et j'ai un côté comme ça, j'aime bien quand il n'y a rien à comprendre. Même si je suis philosophe, j'aime beaucoup ces espaces dans lesquels il y a une évidence. Mais ça, j'ai bien conscience qu'on est très peu.
C'est clair. Est-ce que vous avez une maxime ou une citation qui vous tient à cœur et que vous pourriez nous partager, peut-être des mots que vous répétez régulièrement? Oui.
Tous les dragons ne sont peut-être que des princesses qui attendent de nous voir forts et courageux.
Alors attendez, tous les dragons
ne sont peut-être que des princesses qui attendent de nous voir forts et courageux. C'est-à-dire tous les obstacles, les peurs que j'ai, cachent peut-être en eux un trésor. Et si je m'y approche avec un peu de douceur et d'attention, je verrai que derrière ce qui me fait peur, il y a quelque chose qui m'invite à une transformation, à un éveil. Et c'est une phrase du poète Rainer Maria Rilke, qui est un des poètes que j'aime le plus.
Bien, je ne la connaissais pas et je vous remercie de l'avoir partagée avec nous. Encore quelques petites questions. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis récemment ou pas?
Je pensais qu'on ne peut pas enseigner la méditation autrement qu'en présentiel. Et avec le confinement, j'ai commencé à enseigner la méditation par Zoom. Et je n'y croyais absolument pas et je me suis trompé. C'est formidable. Je fais beaucoup de cours en Zoom. Ma vie a changé. Et j'ai trouvé une manière et ça aide, et c'est beaucoup mieux qu'en présentiel. Parce que, pour apprendre. Après, si on veut approfondir, en présentiel, c'est aussi en présentiel, mais disons, Zoom, parce que les gens sont chez eux. Donc, j'ai compris qu'en faisant des cours, je fais beaucoup de cours. Là, je vais faire un cours qui va bientôt commencer sur le bonheur. Et c'est un cours où il y a sur 2 semaines, 6 séances d'1 heure, donc des fois le soir ou le week-end, le matin. Il y a 6 séances comme ça, assez rapprochées, et les gens, comme ils sont chez eux, ils l'intègrent mieux à leur vie. Alors que quand je faisais un week-end, par exemple, je pouvais enseigner 6 heures dans un week-end, mais après les gens rentraient chez eux, et des fois ils voyaient pas le lien entre ce que je disais et leur vie quotidienne, c'était plus difficile. Tandis que là, ils sont chez eux, ils font l'heure avec moi, donc j'explique des choses, puis on fait des exercices, des pratiques, et ils voient que ça change leur vie. Et donc, je touche d'abord beaucoup, beaucoup plus de gens, et ça a un vrai impact sur les gens, parce qu'ils intègrent davantage leur vie. Et autre chose que j'aurais jamais pensé, c'est que les gens sont beaucoup plus à nu, osent beaucoup plus poser des questions. En public, oui. C'est souvent les gens qui n'ont pas peur, qui posent des questions, et c'est souvent un peu des professionnels de questions, et c'est souvent un peu, pas toujours, mais on a souvent, quand vous êtes dans une conférence, ceux qui lèvent la main, des fois, ils parlent, ils s'écoutent parler, et tout le monde s'ennuie un peu, et on dit, mais ça ne peut pas s'arrêter. Et puis, c'est pas les questions les plus sincères, souvent. Souvent, hein, ça peut... Alors qu'en Zoom, des gens qui oseraient jamais prendre la parole osent davantage prendre la parole parce qu'ils sont derrière leur écran. Et j'ai beaucoup plus de questions qui me... Souvent, je pleure quand les gens me posent des questions. C'est tellement sincère et profond. Ce qui m'était pas arrivé, très rarement, quand je faisais des week-ends. Donc maintenant, je fais presque plus de week-ends. Mais je fais beaucoup ces cours en ligne. Et ça a changé complètement ma vie. Et je croyais vraiment pas que ce serait aussi profond et aussi exaltant. Et donc, je propose des cours. J'ai fait un cours sur l'enfant intérieur, j'ai fait un cours sur les 6 portes, quelle est la porte qu'on est. Et donc, je fais des cours en direct, les gens posent leurs questions. À la fin du cours, les gens peuvent m'écrire, donc il y a plein de gens qui m'écrivent. Je passe beaucoup de temps, parce qu'il y a plein de gens qui écrivent, et j'intègre pour le cours suivant. Donc, j'ai inventé une forme de méthodologie auquel j'aurais jamais pensé et que je trouve qui me passionne.
Et puis avec encore, j'imagine, plus d'impact, puisque beaucoup plus de monde.
C'est clair.
Donc vous arrivez à toucher un public qui est beaucoup plus vaste. Qui est quand
oui,
même...
mais surtout, ce qui me plaît, c'est que ça change davantage la vie des gens. C'est beaucoup plus aidant, et donc ça me plaît beaucoup.
Dernière question pour vous, Fabrice. Est-ce qu'il y a un ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, qui ont peut-être changé la personne que vous étiez, qui vous ont transformé?
Alors, il y en a beaucoup. Je dirais « Les lettres à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke, que je trouve un livre formidable. « Shambhala, la voix sacrée du guerrier » de Shogam Trungpa, qui était ce maître qui m'a de méditation qui m'a complètement transformé. J'aime beaucoup ce livre, « Shambhala,
la voix sacrée du guerrier »,
qui se trouve aux éditions du Seuil.
D'accord. Et qui a un ouvrage de spiritualité orientale.
Oui, on pourrait dire,
orientale.
De spiritualité, c'est un peu universel, je dirais. C'est vraiment un livre que je trouve absolument extraordinaire sur comment devenir un guerrier dans le monde. Pas celui qui fait la guerre, mais celui qui transcende au fond l'agression. Donc ça, c'est un livre
fondateur
que j'ai beaucoup, que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup marqué.
Qu'est-ce qui vous a appris de plus précieux?
Ce livre-là? Ah, qu'il y a au fond de chaque être humain quelque chose d'originairement bon, qui mérite d'être écouté, qu'on peut se poser dans la confiance, qu'on peut arrêter d'avoir cette méfiance fondamentale envers soi-même, qu'on nous a éduqués, formés depuis l'enfance, on est jugé, on est évalué, et qu'on vit avec une forme de méfiance fondamentale envers soi-même. Ce livre m'a ouvert les yeux, ce n'est pas vrai, il y a quelque chose d'originairement bon, originairement, mais qui est manqué. Et la méchanceté vient du fait qu'on n'arrive pas à s'ouvrir à cette dimension originaire. Et ça, je trouve que c'est très, très important, qui pose énormément de questions. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très important. Et aussi, dans ce livre, la perspective que nous avons à être comme des guerriers dans le monde, c'est-à-dire qu'on a un défi à relever. Être un être humain, c'est un défi. C'est pas juste rester les bras croisés et attendre que ça se passe. On a à apprendre à être humain. Il y a un art d'être humain. Et qu'au fond, tous mes livres sont quand même marqués par cette idée que être humain, ça s'apprend. Et que c'est peut-être un des arts les plus passionnants de qu'on puisse apprendre.
Bien, écoutez, Fabrice, je pense que c'est un merveilleux mot de la fin. On a envie d'apprendre avec vous à être un être humain, en tout cas un meilleur être humain. Et je vous remercie 1000 fois pour tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes très présent sur le monde du web. Si on veut vous retrouver, je mettrai les liens, bien sûr, vers votre chaîne YouTube, le site internet aussi, Fabrice Midal. Comme ça, on peut retrouver toutes les formations. Vous êtes aussi présent, si je me trompe pas, sur Instagram. LinkedIn, j'étais plus sûre.
Si, partout.
Partout, vous êtes partout. Donc vous êtes omniprésent et c'est parfait pour notre plus grand plaisir.
Je dirais, je suis comme tout le monde, je vis avec notre temps.
Eh bien, vous avez raison de le faire. En tout cas, un grand, grand merci. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. J'ai devant moi « Foutez-vous la paix » que je viens, comme je disais, de terminer. Et puis également, tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être. Et je vous remercie d'avoir écrit ces livres parce qu'ils sont en plus, je tiens à le dire, quand même très accessibles, quoi, très faciles à lire. Et même quand on n'est pas fanat de développement personnel, je trouve que c'est... ça permet de remettre en cause un certain nombre justement d'idées reçues qu'on peut avoir sur soi, sur le sujet, sur ses pensées. Donc merci de les avoir écrits.
Ben, merci.
Et je vous dis, j'espère à bientôt.
À bientôt.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur paulinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.